Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mai 2022 et nous sommes suspendus aux lèvres de Monsieur Powell. Il n'a pas encore commencé à parler, ils n'ont même pas commencé à se rencontrer. Ils vont commencer à se rencontrer cet après-midi et on aura la réponse sur les taux demain soir à 20h, heure de chez nous. Donc en attendant, eh bien, on a tout qui est ouvert à toutes les fenêtres. Toutes les portes sont ouvertes à toutes les fenêtres, pardon. On est en plein doute, on se pose plein de questions et les marchés vont dans tous les sens en faisant des spéculations sur éventuellement ce qui pourrait peut-être être dit demain soir et comment est-ce que éventuellement peut-être le marché va l'interpréter ensuite. Ça fait beaucoup de si plus conditionnel présent, en gros on n'en sait strictement rien, mais dans le doute on essaye de se balader dans tous les sens pour trouver 2-3 explications. Alors à côté de ça, il y a plein de trucs qui se produisent en même temps et on a même réussi à nous refaire un flash crash sur les marchés européens. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Alors si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier dans le détail, on a d'abord eu l'Europe qui a commencé la semaine un peu dans le pâté. La raison principale, c'est que vendredi dernier, on s'est pris une tôle, évidemment, dans la deuxième partie de journée, comme d'habitude. Hein. Quand les Américains, ils ont envie de baisser très fort, ils attendent que les Européens rentrent à la maison avant de commencer à faire baisser le marché. Donc c'est ce qui s'est passé vendredi. Donc lundi, on avait cet effet de rattrapage, on a commencé à rattraper le retard accumulé, donc les indices ont commencé à baisser. Et puis, il s'est passé un truc, on sait pas pourquoi, on sait pas à cause de qui, on sait pas comment, on sait pas à quel moment ça s'est passé exactement et de quelle manière ça s'est passé, mais les marchés européens se sont effondrés en l'espace de quelques secondes. C'est ce qu'on appelle un flash crash. Alors ça arrive régulièrement sur les marchés un peu partout dans le monde. On n'arrive jamais vraiment trop à savoir comment est-ce que ça s'est passé. On sait jamais qui est le responsable, il n'y a jamais personne qui paye pour ça. On sait pas si c'est ce qu'on appelle un fat fingers ou si simplement il y a eu un bug quelque part. Apparemment, pour l'instant, ce qui est super rassurant, c'est que ce serait un bug. On sait même pas d'où il sort, ni quoi, quand, comment, mais ce serait juste un bug. Il y aurait même pas un gars qui aurait dérapé en disant tiens, je vais vendre un futur, puis à la place il a vendu 1 million de futurs. Non, on sait pas ce qui s'est passé. Néanmoins, on a tous les marchés européens qui ont décalé brutalement. C'est la Suède qui remporte la palme d'or, puisqu'ils ont perdu 8% au pire de la journée en l'espace de quelques secondes. Donc voilà, donc ça, c'est ce genre de situation, même si ça n'a aucun rapport fondamental avec ni l'économie, ni les fondamentaux, ni la guerre en Ukraine, eh bien, à ce moment-là, on a juste une explication qui nous fout juste les boules, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut en penser. Donc ça nous remet une pression supplémentaire, comme si ça suffisait pas, parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on a autour, on a des chiffres du PMI qui étaient sortis hier, qui semblent quand même que la croissance, elle est en train de prendre un joli coup dans l'aile, donc ça rassure pas non plus. Donc, on voit aussi commencer à poindre à l'horizon, tout là-bas, le spectre de la récession. Donc oui, vu qu'on sait pas trop quoi dire ni trop quoi penser de ce que va dire et faire Monsieur Powell demain soir, on est obligé de chercher des arguments pour essayer de diversifier un peu la conversation. Donc on voit de plus en plus dans les médias financiers en ce moment arriver des théories sur la récession. Oui, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est quoi? C'est une inflation explosive qui est générée par une espèce de croissance qui a été boostée par tous les soutiens économiques qui ont été faits durant la période du Covid. Et aujourd'hui, donc on a cette inflation qui explose, le problème des chaînes d'approvisionnement, le fait que la Chine soit fermée un jour sur deux, enfin, etc., etc., fait que bah, tout ça est en train de monter et qu'on commence à flipper grave au niveau de l'inflation. Donc on sait maintenant que les banques centrales vont devoir trouver un moyen de freiner cette inflation, mais le gros challenge dans tout ça, c'est de savoir à quelle vitesse ils vont monter les taux et à quelle fréquence, pour ne pas non plus faire trop de mal à cette croissance qui reste quand même vachement timide. Donc si on a une croissance qui est étouffé dans l'œuf et que vous avez les taux qui montent, eh bien on va se retrouver dans une récession. Et ça, apparemment, c'est pas super bon pour les marchés boursiers. Donc on est en train d'en parler de plus en plus. Il y avait un énorme article dans le Barron's il y a quelques jours, il y a monsieur Ellerian, une des stars économiques américaines, qui parlait hier soir aussi pour dire que il excluait pas la possibilité que. Il y a aussi un des stratèges de chez Morgan Stanley qui annonçait que selon lui, comme vous avez une espèce de ralentissement des résultats et des bénéfices en ce moment, on l'a vu durant les périodes trimestrielles, des trimestrielles en général, ça va, mais c'est pas non plus l'euphorie en termes de croissance. Vous avez donc les bénéfices qui ralentissent et de l'autre côté, eh bien, vous avez l'inflation qui monte. Donc, en général, si on achète une action, c'est on parie que dans 2-3 ans, les bénéfices cumulés vont compenser l'inflation. Mais si vous avez des bénéfices qui partent à la casse et l'inflation qui monte et qui pour l'instant ne montre pas de signe de faiblesse, eh bien, c'est pas forcément rassurant pour la suite. Donc, ce monsieur, qui s'appelle Wilson de chez Morgan Stanley, il a fait un calcul savant. Me demandez pas comment il a fait, mais il a fait un calcul savant et il estime que si ça continue comme ça, le S&P 500 va perdre 17% d'ici quelques mois. Alors, pas 18, hein, pas 16, pas 17,4, non, 17%. C'est un spreadsheet Excel très 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 carré et très important qu'on peut pas vous montrer ici parce que c'est top secret comme dans les films de James Bond. Et donc du coup, eh bien, ce monsieur nous dit attention, méfiance. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup, un peu trop même, d'articles qui viennent parler de la récession et pour l'instant, on a un peu l'impression qu'on les voit, mais on les intègre pas. Et en même temps, quand vous avez des articles sur la récession, des craintes de récession et les indices qui sont sur les supports, il y a de quoi flipper un tout petit peu sa race. Donc voilà, on l'a vu, on est sur les supports. Alors hier soir, malgré tout, en fin de séance aux États-Unis, après avoir hésité toute la journée entre positif et négatif, finalement à 1h de la clôture, les indices sont partis à la hausse. On a donc eu des reversals. On peut dire à la limite que le Nasdaq est en train d'essayer de tester cette zone de support. Est-ce qu'il considère ça comme un support ou est-ce que c'est un espèce de dead cat bounce, un mini rebond qui est censé nous rassurer pour nous remettre la tête sous l'eau dans quelques heures? On ne sait pas. Mais évidemment que la grande question qui se pose pour l'instant, c'est de savoir ce que la Fed va nous sortir demain. Alors on sait qu'ils vont monter les taux de 0,5%, on en reparlera encore demain matin, mais on sait que ça va se produire. On ne sait pas ce que va dire Powell après, et c'est surtout ça qui nous inquiète. Est-ce qu'il va nous dire, je vais monter encore 6 fois de 0,5% et puis on aura les taux à 4 ou à 5 à la fin de l'année? Et ça, c'est une des craintes principales, parce que pour l'instant, le marché a pricé, on va dire, ce côté 3% à la fin de l'année. D'ailleurs, on l'a vu quand le rendement du 10 ans est passé les 3% hier soir, c'est exactement à ce moment-là que les gens se disent « Ah voilà, c'est bon, on a anticipé les 3%, on peut commencer à racheter. » Et c'est à ce moment-là que le marché est reparti un petit peu à la hausse. Donc on se pose beaucoup de questions, on est vraiment sur le fil du rasoir, et en fonction d'un mot, d'une virgule mal placée dans le discours de Monsieur Powell demain, on pourrait avoir un marché qui va nous faire un truc assez explosif, dans un sens ou dans l'autre, rapport au pile ou face dont je parlais hier. Il y a aussi un truc qui est super intéressant, c'est les chiffres du bear bull indicator. Alors vous savez, généralement, il y a des mecs à Wall Street qui se baladent avec un micro qui dit « Vous êtes bull ou vous êtes bear ?» Et puis en fonction de ce que vous répondent les gens, eh bien vous faites une statistique « J'ai un bull, j'ai un bear, j'ai deux bulls, j'ai un bear. » Et puis à la fin, vous dites « Voilà, ben aujourd'hui, on a tant de bears. » Et quand on regarde ce graphique, que vous voyez à l'écran à l'instant, ça ressemble à un électroencéphalogramme d'un trader un peu trop stressé, j'en conviens, mais globalement, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux de bearishness, donc de sentiments négatifs, donc dans le territoire des ours, qu'on n'avait plus vu depuis mars 2009, donc c'est horrible. Alors, dit comme ça, effectivement, on se dit, on n'a jamais eu autant de gens bearish. Ça veut dire quoi? Que les gens sont en train de se tirer des marchés parce qu'ils ont peur, et donc, on est en phase de panique. Presque de panique, parce que depuis mars 2009, on n'avait plus vu ça. Ouais, d'accord. Alors moi, je suis retourné voir ce que c'était en mars 2009. Hein. En mars 2009, c'était plus ou moins le fond du trou, du fond de la tasse, de là où on était en train de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre, au moment du crash total des subprimes. C'était exactement à ce moment-là où Monsieur Roubini est venu nous dire... Ouais, alors là, le marché va encore perdre 50%. On était plus ou moins à 666 sur le S&P 500. 666. J'ai pas besoin de vous dire où on est aujourd'hui, 13 ans plus tard, mais on était à 666 à cette époque-là. Le niveau de négativisme dans le marché était le même que là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut commencer à se dire par rapport à ça, si on est très objectif, c'est que la dernière fois où on a eu aussi peur que ça, où les gens étaient aussi convaincus qu'on allait s'en prendre une, bah c'est là où on a rebondi. Alors de là, on tirait des conclusions que c'est un signal d'achat et c'est qu'aujourd'hui qu'il faut bourrer la caisse parce que c'est la dernière fois qu'on verra le marché aussi bas et puis que dans 5 ans, quand on va se parler, le S&P sera à 9500 et tout le monde trouvera ça normal. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais néanmoins, quand vous voyez en tête de gondole dans certains médias américains, attention, le niveau de bearishness n'a jamais été aussi haut, eh bien peut-être, souvenez-vous que la dernière fois, c'était au fond du trou pendant la crise des subprimes. Donc de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien évidemment, ce sera, on parle aujourd'hui, si on peut dire, on parle de demain, puisque finalement le meeting de la Fed commence aujourd'hui, que demain on en saura un peu plus, et on pense sincèrement qu'à partir de demain, on saura tout. Voilà, on saura tout, tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur les marchés financiers, sur l'avenir de la bourse, sur l'avenir de l'économie pendant les 25 prochaines années, eh bien, on suppose que demain soir, à 20h, heure de chez nous, on saura tout. Alors, évidemment qu'on ne saura rien du tout, et puis probablement 24 heures après, on aura déjà oublié ce que M. Powell nous a annoncé. On a déjà intégré ces annonces, la plupart, mais qu'est-ce qu'il va nous dire pour la suite? Ce sera la grande surprise. Donc, en attendant, volatilité est de mise. Quand on regarde le VIX, on est toujours relativement élevé. On sent que les gens sont tendus et puis on sent que les gens n'ont aucune idée de où est-ce qu'on va aller réellement. Alors la question de nouveau, eh bien, c'est est-ce qu'il faut prendre le risque d'acheter avant le meeting de la Fed et de voir le marché qui dit « Ah bah maintenant on sait !» Boum, rebond. Justifié par le niveau de bearishness, par le fait que la volatilité est très très haute, etc. etc. Ou alors est-ce qu'il faut dire « Ouh là là, moi je me planque et j'attends de voir ce qui va se passer, je me mets cash, et on verra comment ça se passera demain soir. Si vraiment il y a un coup de faiblesse, peut-être que je pourrais tenter de revenir dedans, ou alors ce sera trop tard parce que le marché aura déjà repris 3%. » On a un peu l'impression qu'on est dans cette zone de balancier. Mais donc, rassurez-vous, on aura une réponse demain soir, et puis ensuite, eh bien, on dira qu'on va attendre les chiffres de l'emploi vendredi prochain. On parle aussi un tout petit peu du pétrole, hein, parce qu'il faut quand même le signaler, puisqu'on parle beaucoup d'inflation. Bah, le pétrole est en train de remonter gentiment à 105 et des brouettes pour l'instant. On attend toujours des news de l'Union Européenne qui veut annoncer ou va annoncer ce qu'ils veulent faire pour lutter contre le méchant monsieur Poutine et mettre en place des sanctions économiques, à savoir ne plus consommer du pétrole russe. Alors pour l'instant, on n'en sait rien. Rien n'a changé fondamentalement. Tout ce qu'on sait, c'est que l'Allemagne a déclaré qu'il ne se laisserait pas manipuler, qu'il ne subirait pas le chantage des Russes. Donc ils sont prêts à boycotter, eux, le pétrole russe, avec les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc ça, on verra un petit peu comment ça va évoluer, mais on sent quelque chose, cette tension, et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer de nouveau. Hein. On se fait beaucoup de spéculations en se disant « Oui, mais si les Européens boycottent, le pétrole va monter. » Et puis quand les Européens vont annoncer le boycott, est-ce qu'on aura déjà intégré la chose ou pas? En tous les cas, pour l'instant, le baril est à 105 et des poussières, et il est en train gentiment de recasser à la hausse cette espèce de triangle latéral dans lequel on est. Alors on espère juste qu'il ne va pas s'emballer de nouveau, parce que franchement, ça commence à faire cher le plein. Donc voilà, pour le reste, on continue donc avec les publications des chiffres trimestriels aujourd'hui. À signaler que juste avant, il y aura Logitech qui va publier aujourd'hui, il y a la BNP qui publiera également en France, et puis nous aurons aux États-Unis, nous aurons Pfizer avant l'ouverture, histoire de voir si la quatrième dose fonctionne. Et puis après la clôture, on aura AMD. Attention, résultat très important, ça peut être assez spectaculaire de ce côté-là. Et puis également Airbnb ou Starbucks, entre autres, qui publieront aussi ce soir. Donc les futurs sont légèrement meilleurs pour l'instant. Pour le moment, on tient les supports. On risque de se passer encore une journée en espérant qu'il n'y ait pas de flash crash, une journée un peu calme en attendant les annonces de demain soir. Et puis d'ici là, on brasse beaucoup d'air et puis on est très tendu. Notre tension artérielle est de plus en plus élevée. Vivement qu'on ait des réponses. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous enjoins à rejoindre la chaîne Swissquote Suisse en cliquant par là autour de la vidéo, de liker cette vidéo, de la partager partout dans le monde et de revenir me voir demain matin pour la suite et pour vous reparler encore une fois de ce que éventuellement peut-être ou pas Monsieur Powell fera demain soir. Voilà, excellente journée à tous. Passez une très très belle séance de trading. Encore une fois, bon café, bon croissant et puis à demain. Bye bye.